pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Bienvenue au village de l'eau.
Pendant ce village de l'eau, nous allons essayer de créer des solidarités. Il est important plus que jamais de nous mettre en réseau, de nous parler, de créer des liens entre nous. Et les conférences, tables rondes, formations vont être l'occasion de partager nos expériences, de nous mettre en lien et d'essayer de créer un réseau fort pour lutter contre l'accaparement de l'eau. Nova Saran, et soyons unis.
Nova Saran.
Il n'y a pas d'autre recette que de devenir un véritable pouvoir. Et pour devenir un pouvoir, c'est à travers l'union de la vision collective, de la conscience claire, de la force du collectif, des masses et des multitudes unies par un objectif commun. Et deuxièmement, un réenchantement de la mère Terre, un réenchantement de la nature, un réenchantement du monde. Aller à contresens des pères de la philosophie moderne, de Descartes. Et maintenant, il faut réenchanter le monde. Il faut commencer à remystifier la mère Terre, lui donner cet aspect mythique qui est tellement important. S'il y a quelque chose que les peuples autochtones n'ont jamais fait et que pour nous constitue la plus grosse erreur jamais commise dans l'histoire de l'humanité, c'est ça, c'est avoir osé, ici en Europe, l'homme, de se positionner au-dessus de la mère Terre.
Réenchanter le monde, remystifier la mère Terre, en finir avec la croyance absurde et mortifère que l'espèce humaine est au-dessus de tout le vivant non humain et au-dessus de tout le reste aussi d'ailleurs. Réenchanter la mère Terre, remythifier la mère Terre, des expressions qui pourraient faire sourire, mais qui ont tout leur sens dans la bouche de votre invité. Juan Pablo Gutiérrez, membre du peuple autochtone Yucpa, nation regroupant quelques milliers de personnes vivant sur un territoire à cheval sur ce qu'on connaît comme Colombie et Venezuela. Mais vous allez voir, votre invité n'appelle pas ces pays-là comme ça. Juan Pablo vit en exil en France depuis quelques années, car combattant de la nation Yucpa, et donc combattant pour la préservation de la biodiversité du territoire des Yucpa, il est en Colombie menacé de mort par des mercenaires qui tuent pour le compte de multinationales. Car le territoire des Yucpa a le malheur de regorger de charbon. Charbon pillé par des multinationales qui détruisent toute vie autour des mines. Multinationales qui poursuivent le génocide des peuples autochtones entamé il y a déjà 5 siècles dans cette région du monde que votre invité n'appelle pas Amérique. En matière de résistance et de survie, les Yucpa ont au moins 5 siècles d'avance sur nous, occidentaux d'ici.
Si on commençait vraiment à se concevoir comme un collectif, totalement conscient de la force qu'on peut avoir en tant que collectif, en tant que siège du pouvoir, en tant que base du pouvoir, les choses changeraient totalement, sans avoir besoin d'armes, sans avoir besoin, toujours en avançant. Il y a plein de morts qui restent dans nos mobilisations, mais on dit on défend la vie jusqu'à la vie même, et on avance, ça fait partie du processus, qui ne recule jamais, qui n'attend pas que le changement vienne de la prise de conscience soudaine des gouverneurs ou des corporations, mais qui fait que les choses changent. Et ça, c'est la différence entre l'activisme et d'un autre côté, la révolution, qui fait que les choses changent. Mais on peut le faire juste avec la force des multitudes, consciente du pouvoir transformateur, pleinement consciente de la force de ce qu'ils sont, en avançant ensemble, constitués en un vrai pouvoir. C'est la force de l'unité.
Force de l'unité, du commun, du collectif, point essentiel de la locution de Juan Pablo Gutiérrez qui, sur la grande scène du village de l'eau, s'est exprimé en tant que l'un des porte-parole du peuple Yucpa.
Aujourd'hui, nous sommes ici les fils et les filles d'hommes et de femmes libres venus de différents continents du monde. Les fils et les filles d'hommes et de femmes libres qui ne se sont jamais soumis à l'autorité individuelle des gouvernements de la mort. Des gouvernements déconnectés de la loi naturelle, de la loi divine, de la loi de la vie. Nous sommes aujourd'hui, ici en France, des représentants de peuples autochtones, de communautés paysannes et des communautés noires, venus de la Colombie, du Brésil, du Mexique, du Chili, les fils et les filles d'hommes et de femmes libres qui ne sont jamais tombés dans le piège du progrès moderne, violeurs de la vie et prédateurs de la mère Terre, qui est à l'origine de la plus grande menace que nous ayons jamais eue en tant que famille humaine, la crise climatique. Nous sommes aujourd'hui, ici en France, les fils et les filles de la Mère Terre, qui depuis des siècles, luttons sans relâche pour la défendre contre les politiques des gouvernements archaïques et retardataires, les gouvernements de l'absurde, de la mort et contre leurs politiques, ces politiques de ces gouvernements illégitimes. Aujourd'hui, nous sommes ici pour porter notre soutien ferme et déterminé aux milliers de frères et sœurs mobilisés à Mel qui luttent contre la privatisation du vivant, du vital, de l'eau, qui luttent comme nous pour le droit universel à la vie digne. La Mère Terre ne connaît pas de frontières et la lutte pour la défendre non plus. No pasarán. Fuerza, compañeros.
Salut les amis, c'est JBD pour La Voix Off. Au Village de l'Eau, organisé en juillet 2024 à Saint-Martin-les-Mels par Bassine Nanmercy, des Soulèvements de la Terre, avec une multitude d'autres collectifs. Village de l'Eau qui a reçu de nombreuses délégations étrangères de militantes et militants, voire même de combattantes et combattants politiques, environnementaux, écologistes, enfin, choisirez votre mot, et donc anticapitalistes venus d'Europe, du Rojava, de Palestine, du Brésil, du Mexique, et donc de cet espace qu'on appelle Colombie. Bonjour Juan.
Salut.
Qui es-tu ?
Je suis Juan Pablo Gutiérrez et viens des terres qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de la Colombie. Je viens d'un peuple autochtone, peuple Djukpa, du peuple autochtone Djukpa, dans la masse continentale de la Biajala, connue sous le nom de l'Amérique, et en exil en France depuis 5 ans, parce que les groupes paramilitaires au service des multinationales en Colombie m'ont catalogué objectif militaire et ont essayé de m'assassiner en deux occasions, en raison de mon travail de défense du territoire et de dénonciation des impacts de ces projets qu'on appelle là-bas de développement dans nos vies.
Tu parlais le français avant de venir en France ?
Non, mais la maman de ma fille est française. Elle n'a pas été très motivée pour apprendre l'espagnol, ce qui m'a forcé à apprendre le français. Et après, je l'ai perfectionné grâce à la lecture. Et après, j'ai profité pour faire quelques études. Et ça me sert en tant qu'arme pour pouvoir mettre en valeur tout ce qui se passe pour le public francophone.
Veut-on dire que tu appartiens à une nation Yukpa, on dit ?
Yukpa, oui. Et c'est en effet une nation. On dit la grande nation Yukpa. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les peuples autochtones. C'est un peuple autochtone qui existe encore aujourd'hui en Colombie. Et quand on parle de peuples autochtones, ce n'est pas des communautés qu'il y a par-ci, par-là. Ce n'est pas juste des communautés, c'est vraiment des nations, d'univers différents, de manière de comprendre le monde différemment, de visions de monde, d'ontologies différentes. Et nous, les Yukpa, nous sommes un des 115 peuples autochtones qui, encore aujourd'hui, vivent dans le territoire qu'on connaît sous le nom de la Colombie.
Uniquement sur le territoire de la Colombie ou ta nation est présente sur d'autres pays ?
Alors, nous n'avons pas d'État-nation, mais par contre, dans la logique de l'État-nation moderne, nous sommes binationaux. Dans la logique moderne de la conception de l'État-nation, nous sommes colombiens et vénézuéliens. En même temps, parce que notre territoire fait frontière naturelle entre ce qu'on connaît sous le nom de la Colombie et le Venezuela. Mais dans notre acception du monde, ça n'existe pas. Il n'y a pas de Yukpa vénézuélien et de Yukpa colombien. C'est les Yukpa, tout simplement. La notion de frontière, pour nous, n'existe pas. C'est une invention moderne de l'État national hérité de la conquête.
On a bien observé que tu disais dans cet espace qu'on désigne aujourd'hui comme la Colombie, sur ce continent qu'on désigne aujourd'hui comme l'Amérique du Sud, on a bien vu que tu n'adhères pas à la vision coloniale des cartes qu'on nous enseigne à l'école.
En fin de compte, c'est quelque chose qui est le produit d'une invention, non ? Et surtout d'une invention héritée d'un modèle colonial et qui nous a été imposé. C'est même pas quelque chose qui provient des besoins locaux ou des particularismes locaux, non, c'est la reproduction de l'héritage colonial. C'est l'héritage des logiques coloniales qu'on nous a imposées il y a plus de 5 siècles à l'échelle de notre continent. Alors les frontières n'existent pas pour nous. La Mère Terre n'a pas de frontières. et les nationalismes qui viennent avec non plus. Il y a des peuples qui vivent dans la terre en général, qui ont des manières différentes de comprendre le monde, des visions différentes. Mais ça, c'est des peuples qui habitent différents territoires. Mais les nationalismes, depuis l'acception moderne, pour nous, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de notre vision du monde.
Avant la conquête par les Espagnols et puis tous les autres, comment ça s'appelait cette zone où est ta nation? C'était quoi, un royaume, une zone d'influence avec les autres nations?
Alors, comme je te l'ai dit, dans le territoire qu'aujourd'hui on connaît sous le nom d'Amérique, c'est les terres que nous on désigne sous le nom de Abiajal. Ça s'appelle comme ça, Abiajal, mais dans l'actualité, c'est le nom partagé par l'ensemble, par la presque majorité des peuples autochtones de l'Amérique, pour qu'on comprenne bien. Et on le désigne comme Abiajal. Alors si un jour vous entendez « nous sommes de l'Abiajal », ça veut dire « nous sommes de l'Amérique » en quelque sorte. On fait référence au même territoire. C'est le nom qui existait avant que celui d'Amérique ait été imposé avec la colonisation. Et dans ces terres de l'Abiajal, il y avait bien sûr différents peuples qui existaient. Il y avait même des empires, l'empire Inca, l'empire Aztèque, avec des délimitations non territoriales comme il y en a aussi dans l'actualité. Nous sommes 115 peuples différents en Colombie. Nous sommes des voisins, par exemple, nous les Yucpas, du peuple Bari. Mais chacun respecte son propre territoire. Il n'y a pas cette logique moderne, mais surtout très héritière des principes chrétiens, de la conversion de l'autre, de l'assimilation. Et un peu à la française, de vouloir convertir l'autre, d'être sûr d'imposer son point de vue comme le seul possible, comme l'universel, de cette vision dualiste du monde, soit c'est noir, soit c'est blanc. On comprend qu'il y a 50 peuples différents qui avons des points de vue totalement différents et on ne s'impose pas sur les autres pour que notre point de vue soit le prédominant. Non, on habite ce territoire et on sait que les autres peuples le respectent de la même manière que nous et même plus.
Si tu veux bien, venons-en aux circonstances que tu as évoquées en début de conversation. En Colombie, tu es menacé de mort. Pour quelles raisons?
Alors la Colombie, c'est un pays rempli de contrastes. D'un côté, c'est le deuxième pays le plus biodivers du monde. C'est-à-dire qu'il régorge de ce que ici, en Occident, on appelle des ressources naturelles. Ces ressources, entre guillemets, se trouvent pas à Bogota, à Medellín, dans les grandes villes, mais il se trouve dans les territoires des peuples autochtones. Il ne faut pas être un érudit pour savoir que nous sommes gouvernés mondialement par un système capitaliste, néolibéral, colonial, qui, dans sa nature même, pour pouvoir exister, dépend structurellement de l'exploitation de ces territoires pour faire marcher la machine, non ? Le cœur de ce système, le marché, pour continuer à produire des choses totalement inutiles et garantir le soi-disant progrès. Alors, nous, en tant que peuples autochtones, nous, en tant que Yucpa, on n'est pas l'exception. Nous portons le poids depuis 5 siècles de ce soi-disant progrès, qui est le colonialisme sous une autre forme, pour garantir ce soi-disant progrès du reste du monde, pour pouvoir garantir le mode de vie, surtout des sociétés du Nord. Dans notre cas, c'est du charbon. C'est des mines de charbon qui se sont installées sans nous prévenir, qui ont ouvert des mines de charbon énormes, qui ont détruit le tout dont on dépend pour survivre. Tous les animaux sont pratiquement partis. Il y a 5 mines de charbon, dont une qui fait 2 fois la taille de la ville de Paris, qui a dévié des rivières, qui les a polluées. On ne peut plus pêcher parce qu'il n'y a plus de poissons. Alors si on veut manger du poisson, on doit descendre à la partie basse pour l'acheter dans les villes. Et il n'y a plus d'animaux pour se nourrir. Il faut vraiment aller très très loin, plutôt du côté de Venezuela, pour les trouver. Et il y a une violence paramilitaire qui a été créée et c'est un modus operandi des multinationales qui enrôlent et c'est déjà prouvé. Il y a même le président d'une des multinationales qui est en prison actuellement.
Qui ça?
Le président de la multinationale états-unienne, ça s'appelle Drummond, et les nexes avec les groupes paramilitaires ont été prouvés et il est en ce moment en prison. Il y a une autre mine qui est européenne, qui vient de la Suisse, qui s'appelle Glencore aussi. Et ils enrôlent des milices et des groupes armés illégaux pour sortir du passage et toutes les personnes qui s'opposent à ce soi-disant progrès, pour qu'ils leur fassent le travail sale, pour qu'ils puissent se laver les mains et ne pas avoir des responsabilités sur ça. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Mais pour continuer sur la liste des affectations, alors il y a des nouvelles maladies, maladies respiratoires, surtout pour les enfants, à cause de la poudre de charbon qui règne dans l'atmosphère maintenant, dans le territoire, qui coûte la vie à approximativement 40 enfants par an. Alors 40 enfants Djoukpa meurent chaque an, soit de malnutrition ou soit de maladies respiratoires, à cause des conséquences de cette mine. Et il y a des cimetières sacrés, des sites sacrés qui ont été profanés. Et des anciens travailleurs de cette mine nous ont dit qu'à plusieurs reprises, ils avaient trouvé des petits corps emballés dans une sorte très particulière qu'on emballe et dans des tissus et les corps des défunts. Et qu'ils avaient entendu dire que ces corps avaient été extraits du pays pour être exposés dans des musées à l'étranger. Alors c'est une tragédie totale. Pourquoi ? Pour ramener du charbon en Europe, pour produire de l'électricité, pour garantir la vie normale. Et c'est la logique de tous les peuples autochtones depuis 5 siècles. Le génocide pour pouvoir garantir le progrès. Et si on s'oppose à ça, ce n'est pas le progrès pour nous, bien évidemment. C'est pour garantir la vie normale. Ici en France, ce charbon il est exporté, importé, pour plus de 20 ans par EDF. Avant de passer au nucléaire. Maintenant, c'est en Afrique qu'il commence à sortir l'uranium et tout ça. Mais l'Allemagne, et il continue à le faire, même actuellement en 2024. Alors il y a une responsabilité directe et moi, là-bas, bah, mon rôle consistait à dénoncer ça. Et toute cette géopolitique globale que certaines personnes connaissent, mais pas toutes, cette prise de conscience de la citoyenneté, des organisations, tout ça, pour mobiliser les gens. Et quand on dénonce, quand on dérange en Colombie, et ça vient suivi par des menaces. Et c'est un peu la logique naturelle du défenseur, soit des droits humains ou soit de l'environnement en Colombie. C'est les menaces à chaque fois. Et malheureusement, c'est devenu tellement normal que c'est l'indicateur du bon travail. C'est-à-dire, si tu es menacé, c'est-à-dire tu es en train de faire un bon boulot. Mais par contre, le problème commence à partir du moment où il matérialise les menaces. Alors, on te menace. On t'invite à te taire. Si tu ne te tais pas, on t'envoie un deuxième tract en te disant on te déclare objectif militaire, tu as 24 heures pour partir, on sait que tu es à cette adresse, on sait que ta maman habite à cette adresse, on sait que tu as 24 heures. Et si on ne part pas, bah après on essaie de te tuer. Et chez moi, c'est comme ça. Et ça s'est passé 2 fois. La première, ma fille n'était pas encore née. Et je suis resté, malgré l'attentat. Et la deuxième fois, ma fille, elle était déjà née, elle avait 2 ans. Et j'ai eu très peur pour elle. Et j'ai décidé de partir avec mon épouse, sa maman, son épouse de l'époque. Nous sommes atterris ici en France. Mais ce n'est pas une situation extraordinaire. C'est la règle, malheureusement, de tous les défenseurs de cette biodiversité qui regorge en Colombie.
Bon alors les amis, je suis vraiment désolé pour ce bruit qui parasite la conversation avec Juan Pablo Gutiérrez. Il se trouve qu'on s'est installé dans un coin un peu bruyant du village de l'eau où il y a plein de gens qui bricolent des trucs, mais bon, c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, Juan Pablo revient sur le travail, la mission qu'il menait dans cet espace qu'on appelle Colombie.
Le travail se faisait à 3 niveaux. Et le premier, c'était à échelle locale du peuple, comme tel. On dénonçait ça. Et à travers nos propres canaux de communication, à travers les différents alliés qu'on avait, etc. La deuxième ligne d'action, c'était à échelle nationale, l'Organisation nationale indigène de la Colombie, qui est la grande maison des peuples autochtones en Colombie. C'est l'organisation qui concentre tous les peuples autochtones de la Colombie, qui est très puissante, qui est très connue, nationale et internationalement, et qui a beaucoup d'alliés internationaux. Beaucoup d'ONG, d'agences de coopération, mais aussi des collectifs activistes, des fondations partout. Et ça m'a permis de développer cette troisième ligne de dénonciation à échelle internationale avec différentes structures à échelle internationale.
Ces mines contre lesquelles toi et les tiens, vous luttez encore, elles ont été ouvertes quand, ces fameuses mines-là dont tu parlais, notamment celle qui est grande comme 2 fois Paris?
C'est une mine qui, paradoxalement, s'appelle El Descanso, c'est-à-dire le repos en français. Elle a été ouverte il y a 30 ans grâce à la complicité des gouvernements colombiens de l'époque qui bien évidemment c'est pas le même d'aujourd'hui, qui depuis 2 ans on a réussi à avoir le premier gouvernement de gauche en Colombie et qui est totalement aligné avec notre agenda. Mais à l'époque, les gouvernements de droite qui ont toujours gouverné la Colombie jusqu'à il y a 2 ans, il a octroyé des permis d'exploitation, c'est-à-dire que d'un point de vue légal, ils sont là. Le gouvernement de l'époque a justifié la non-existence des peuples dans ces territoires et de ce fait, le non-besoin de faire une consultation, parce qu'il n'y a pas de population qui pourrait être affectée.
Ça, c'est ce qu'ils disent.
Exactement. Ça, c'est l'argument qu'ils ont utilisé pour pouvoir octroyer les permis d'exploitation. Mais aussi, c'est la présence des groupes paramilitaires qui sont arrivés, qui ont déplacé les populations. Et ensuite, par de magie, les multinationales sont arrivées en disant « Bah oui, en effet, il n'y a pas de population. Bah, on va s'installer ici. En plus, on a la permission. » Et c'est le modus operandi dans pratiquement tous les territoires des peuples autochtones. C'est les paramilitaires qui arrivent, qui déplacent les populations. Et ensuite, la complicité des gouvernements de l'époque qui octroyaient des permissions et ils s'installaient ensuite.
Tu as prononcé un mot très grave tout à l'heure, le mot génocide, concernant notamment la nation à laquelle tu appartiens, mais pas seulement. Hein. En fait, tous les gens qui ont le malheur de vivre sur des terres dont le sous-sol est plein de richesses. Toutes ces richesses, paradoxalement, sont une malédiction.
C'est ça. Comme je l'ai dit, nous sommes le 2e pays le plus biodivers au monde. Et au lieu d'être une raison de fierté, c'est une condamnation de mort. Dans ce contexte néolibéral et capitaliste, colonial, patriarcal, qui dépend, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ses ressources pour fonctionner. Pour nous, les communautés locales qui sont là, ce n'est pas une raison de fierté ou de réveil, mais au contraire, c'est une condamnation de mort, et effectivement. Et quand on parle de génocide, ce n'est pas une exagération, c'est quelque chose de systématique qui a commencé il y a 5 siècles, mais qui n'a pas pu se matérialiser totalement, ce génocide, pour ça qu'on est encore là, grâce à la manière dont on a su s'organiser et résister. Et c'est, je pense, sur cet aspect et sur cette facette-là que le rôle des peuples autochtones peut être important dans l'agenda de ce type d'organisation, de festivals ici en Europe, où plein de personnes qui sont en train de trouver une réponse pour se battre contre ce système contre lequel on est en train de se battre depuis 5 siècles. On a quand même quelques 500 ans d'avance de lutte contre ce monstre que vous êtes en train d'essayer de combattre aujourd'hui. Peut-être qu'il y aurait des lumières à apporter. Et ça commence par la... On est très essentialisé en tant que peuples autochtones. Et tout commence par la déromantisation des peuples autochtones. Voilà.
Tu évoquais tout à l'heure la résistance, une résistance qui dure depuis 5 siècles. Tu parlais aussi de l'importance du collectif. Concrètement, la lutte et la résistance, à partir du moment où la terre a été tuée et saccagée, ben, on ne peut plus rien y faire pousser, on ne peut plus y vivre, il y a de la poussière de charbon, on ne peut même pas se cacher dans de la forêt, il n'y en a plus. Comment résister dans une zone désertifiée ?
Alors on a détruit énormément de notre territoire, mais il y a quand même une partie où nous sommes actuellement, où on peut un tout petit peu encore cultiver et un peu survivre, sinon on aurait été obligé de partir, parce que pour nous nourrir, mais nous sommes assignés, et ouais. Il y a très peu de terrain disponible pour énormément de personnes.
Combien y a-t-il de personnes de ta nation ?
4000 personnes. Et dans un territoire qui n'est pas suffisant, du coup, là, on est en train de survivre. On veut récupérer le territoire,
comme on dit, récupérer la terre pour tout récupérer. Ça, c'est un peu la consigne des peuples autochtones en Colombie et surtout ceux du sud-occident colombien. C'est récupérer la terre pour tout récupérer. Parce que ce qui constitue un peuple autochtone, ce qui caractérise un peuple autochtone, c'est une culture particulière liée au particularisme d'un territoire. C'est-à-dire que les peuples autochtones sont une communauté qui a une culture qui dépend des particularismes d'un territoire. À partir du moment où le territoire il est affecté, il y a une impossibilité d'exercer la culture et il y a un risque d'extinction culturelle, une impossibilité d'exercer la culture. Nous voulons récupérer notre territoire pour le harmoniser, pour le guérir, pour le libérer, non ? Il est séquestré par la logique coloniale et par le capitalisme. Mais il est là le territoire, détruit, bien sûr. Mais on veut que la Mère Terre puisse à nouveau respirer et guérir, commencer à guérir petit à petit.
Quelle forme la lutte et la résistance ont-elles ? Quand tu me dis groupe paramilitaire, bah, ça veut dire des gens armés. Est-ce que ça veut dire soi-même s'armer ? Ou utiliser d'autres armes que des fusils ?
Oui, alors ça c'est une question qu'on me pose souvent ici en Europe. Parce que à chaque fois que je dis qu'il faut lutter, qu'il faut se battre, que dans les contextes d'extrême violence comme ceux où on a dû grandir, mon père il a été assassiné par exemple quand j'avais 3 ans, tous ces discours, tous ces narratifs par exemple de ce qui est et ce qui n'est pas la violence changent totalement. C'est très facile par exemple d'avoir des, je le dis entre guillemets, la violence et la non-violence, parce que ça n'a pas une signification universelle. Et pour toutes les cultures, ce n'est pas la même chose. Cette soi-disant violence et non-violence, c'est très facile de la défendre quand on est dans un contexte de privilège. Bah oui, c'est facile de dire je suis non-violent. Je dis à toutes ces personnes, si un groupe paramilitaire avait un fusil AK-47 sur la tête de votre grand-mère, comme ça s'est passé chez moi, je suis convaincu que vous n'allez pas dire « Je suis non-violent, tuez ma grand-mère. » Bah non, on se bat et on défend la grand-mère. De la même manière comme on défend la mère. Et la mère terre également. C'est pour ça que ce que ici on typifie comme violence, entre guillemets, nous, on l'appelle la défense de la vie et du territoire. Et surtout, on ne tombe pas dans ce piège du soi-disant dictionnaire universel avec des significations soi-disant universelles, mais qui est un dictionnaire créé par les corporations et par les gouvernements. C'est très facile de défendre ça comme ça. C'est très facile de défendre la narrative de la violence et de la non-violence quand on est dans un contexte pacifique. Je ne sais pas qui pourrait le défendre dans un contexte d'oppression. Et notre forme d'organisation, cette question qu'on me pose à chaque fois de s'il faut s'armer, s'il ne faut pas s'armer, on me dit « Bon Juan, sois clair, il faut s'armer, il ne faut pas s'armer, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Et je dis « Bah bien sûr, il faut s'armer. Et il faut s'armer de l'arme la plus létale qui existe, qu'on a toujours eue, et c'est la détermination d'un peuple uni. » D'un collectif, d'une communauté constituée dans une force inarrêtable, totalement consciente de la force transformatrice, et qui devient comme un fleuve totalement instoppable, inarrêtable, par aucune autorité. Et ça a beaucoup plus d'impact et c'est beaucoup plus létal que des fusils AK-47 ou des Kalachnikov. Vous pouvez trouver des vidéos sur Internet, par exemple, des peuples autochtones en Colombie, et dans le sud-occident, et même du peuple Yukpa, mobilisé. Quand les groupes paramilitaires ont voulu accéder dans notre territoire, il y a 2000 Yukpa qui sont descendus à la partie basse. Grand-mère, grands-parents, enfants, petits-fils, tout le monde, les familles, ils ont dit, ben, vous voulez entrer dans notre territoire, vous devez nous tuer tous. On va se faire tuer. Et on va voir qui recule d'abord. Et en plus, on a dit, dans la partie haute de la montagne, il y a des personnes qui sont restées à la naissance des rivières et on va empoisonner toutes les naissances des rivières et comme ça on va empoisonner toutes les personnes des villes qui dépendent des rivières qui viennent de notre montagne et comme ça vous serez les responsables de la mort du peuple Yukpa, de la mort de toutes les personnes des villes. Cette force d'une grande mère en train de regarder un monsieur armé aux yeux avec une détermination et suivi par 2000 personnes sans armes, ça a empêché aux groupes paramilitaires qui sont les plus sanguinaires qui jouent au foot avec les têtes des personnes et tout, d'entrer dans notre territoire. Même les forces armées du gouvernement colombien, ils ont voulu entrer à un territoire d'un autre peuple autochtone, dans le sud de la Colombie. Elles se sont installées, les forces armées du gouvernement colombien, Ils se sont installés dans une montagne qui est sacrée pour ce peuple autochtone, qui est le peuple Naza, ça s'appelle comme ça. Et la communauté est allée leur dire, sortez, c'est notre territoire, en plus c'est un endroit sacré, vous ne pouvez pas être là avec des armes, vous ne nous avez pas consultés. Et ils ont dit, on suit des ordres, on doit être ici, et la communauté a dit, bah non, vous partez. Alors ils ont bien pris les armes un peu pour faire peur, et la communauté, on s'en fout, vous partez. 1000 personnes, on les a portées, on les a poussées. Et après, les médias de communication colombiennes interviewaient le capitaine de ce groupe de soldats, et il pleurait, il y a une vidéo sur YouTube. Il pleurait, il disait, je ne m'étais jamais senti aussi incapable dans ma vie de ne pas pouvoir actionner mon arme face à la dignité de ce peuple déterminé à nous faire sortir de son territoire sans aucune arme. Alors, si on commençait vraiment à se concevoir comme un collectif, comme en étant totalement conscient de la force qu'on peut avoir en tant que collectif, en tant que siège du pouvoir, en tant que base du pouvoir, les choses changeraient totalement. Sans avoir besoin d'armes, sans avoir besoin, toujours en avançant. Il y a plein de morts, hein, des fois, qui restent dans nos mobilisations, mais on est totalement conscient de ça. On dit, on défend la vie jusqu'à la vie même. Et on avance, ça fait partie du processus. Et on dit, par chaque personne, par chaque Indien qui meurt, il y en a des mille qui vont continuer à naître dans ce processus, qui ne reculent jamais, et qui avancent, et qui avancent, qui avancent, et surtout qui n'espèrent pas que les choses changent, qui n'attend pas que les choses changent du jour au lendemain, qui n'attend pas que le changement vienne de la prise de conscience soudaine des gouverneurs ou des corporations, mais qui fait que les choses changent. Et ça, c'est la différence entre l'activisme et la révolution. L'activisme a au fond une espérance qu'avec cet appel qu'on est en train de faire au gouvernement, ils se disent « Ah oui, en effet, c'est vrai, le capitalisme, il est mauvais, bah, on va changer. Bah, » C'est quelque chose qui ne va jamais arriver. Et d'un autre côté, la révolution qui fait que les choses changent. Il va toujours en avance. Et je pense que c'est très, très important d'arriver à ce point-là. Mais on peut le faire juste avec la force des multitudes, consciente du pouvoir transformateur, pleinement consciente de la force de ce qu'ils sont, en avançant ensemble, constitués en un vrai pouvoir. Et ça, c'est la recette qui a fait que nous, en tant que peuples autochtones, en étant en Colombie le 3% de la population, on n'est pas réussi encore à nous exterminer. C'est la force de l'unité.
Est-ce que ce qu'on appelle l'opinion publique de ce qu'on appelle la Colombie joue un rôle là-dedans? Parce qu'il y a le regard de la population. Est-ce qu'il y a une solidarité dans la population, notamment colombienne, avec vous?
Malheureusement, très peu. Parce que, comme je l'ai dit, on est presque le 3% de la population, ouais, maximum. Et le 97%, c'est des non-indigènes ou d'afro-descendants, mais on est vraiment une minorité. Et en Colombie, on porte un héritage colonial au niveau de la conception de ce qui est un autochtone, conçu depuis l'inception coloniale, comme sauvage, comme arriéré, comme moche, comme non-civilisé, comme...
Ou exotique.
Et il y en a qui commencent actuellement à se dire, ah non, en effet, oui, ils protègent à la lumière de la crise climatique, qui est une évidence. Petit à petit, l'agenda des peuples autochtones commence, sans aucune prétention, à se positionner pour la première fois de l'histoire comme un possible référent, tant en Colombie qu'internationalement. Mais en Colombie, ces séquelles racistes ont imprégné toutes les sphères de la société, la politique également. Et c'est pour ça qu'il y a autant de racisme structurel qu'il faut combattre, non? Il faut, en Colombie, la plupart des personnes suivent les modèles d'ailleurs. Ceux qui veulent être riches, avoir un modèle de vie capitaliste, ils suivent le modèle états-unien. Leur rêve, c'est avoir cette vie-là. Et les autres, ils disent non, ça, c'est pas le modèle, on est plus intellectuel et tout ça. Ils imitent les Français. Alors, les uns sont des très mauvais états-uniens et les autres, c'est des très mauvais Français. Du coup, c'est des très mauvaises photocopies. Ils ne sont ni états-uniens, ni colombiens, ni français, ni colombiens non plus. Et il y a les nouvelles générations, plus conscientes de ce moment, de la crise climatique et de la pertinence du message des peuples autochtones, qui commencent à se rendre compte, en effet, que ces racines qui sont là, ces privilèges qu'ils ont d'avoir dans leur territoire, c'est le moment de travailler ensemble. Les étudiants, ils commencent petit à petit à prendre conscience de ça.
Tu disais que l'actuel et récent gouvernement colombien, gouvernement de gauche, tout à l'heure depuis 2 ans, est plutôt un allié?
Oui, heureusement, depuis 2 ans, on a réussi à faire arriver au pouvoir un gouvernement de gauche propulsé au pouvoir par la force des bases sociales et populaires de la Colombie, des peuples autochtones, des communautés noires, des communautés paysannes, des étudiants, des jeunes.
Des anciens FARC aussi ?
Et certainement, oui, certainement des anciens FARC qui font partie maintenant de la vie civile. Et c'est un président qui a un modèle de pays, un modèle de société colombienne qui va totalement en correspondance avec notre vision de vie. Et il a une clarté, je pense que c'est le seul président au monde actuellement qui a une clarté politique de tout ce qui est en train de se passer à échelle même globale, sur ce qui se passe en Palestine et sur ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, en Amérique latine également, avec le réchauffement climatique et la pertinence d'annuler la dette illégitime financière des pays du Sud envers les pays du Nord. Et ce gouvernement, pour la première fois, nous a rendu quelque chose qu'on avait perdu en Colombie. Et même si on continuait à lutter contre ce monstre, c'était très difficile et beaucoup avaient perdu l'espoir en Colombie. Et ce gouvernement a fait à la population en général reprendre l'espoir et que c'est possible de vivre avec de la justice sociale, un peu plus d'égalité. Nous sommes en train de le soutenir pleinement. C'est le gouvernement de Gustavo Petro.
L'histoire nous a hélas démontré que quand il y a des gouvernements de gauche, par exemple sur le continent sud-américain, qu'on appelle sud-américain, il peut y avoir une intervention des États-Unis.
Oui, oui, oui. Il y a une crainte permanente sur la pérennité de ce gouvernement, sur la possibilité de rester jusqu'à la fin, parce que cette oligarchie qui a gouverné la Colombie de droite pendant plus de 2 siècles de vie républicaine sont les détenteurs, par exemple, des principaux médias de communication qui créent toute la subjectivité de la plupart des citoyens en Colombie et qui en permanence sont en train d'empoisonner les gens avec des choses négatives sur ce gouvernement. Et vis-à-vis des États-Unis, il y a cette même crainte parce que, comme tu le dis, c'est un peu la logique établie dans les différents pays où la gauche a commencé à vouloir vraiment se positionner, et en Amérique latine, avec Allende, etc. C'est cette crainte permanente et on espère juste que ça ne va pas arriver. Oui.
Vous êtes toujours avec Juan Pablo Gutiérrez, militant et combattant du peuple autochtone Yucpa, exilé en France car menacé de mort en Colombie, pour avoir lutté contre les multinationales qui ravagent le territoire de la nation Yucpa pour en piller le charbon. Des niveaux de violence extrêmes qui, pour le moment, n'ont rien à voir avec ce que connaît la France. Alors vous savez, on a rencontré Juan Pablo au Village de l'eau, événement notamment organisé par Bassine Non Merci. Comparaison n'est pas raison, mais fais-tu des parallèles ou des passerelles entre le combat anti-agro-industrie d'ici et le combat là-bas contre ces mines de charbon qui détruisent les Yucpa et leur territoire?
Oui, bien sûr, c'est une lutte pour le commun, pour le vivant. C'est un pas très important qu'ils sont en train de mener. J'ai eu l'opportunité d'être l'année dernière à l'occasion de Sainte Soline et de voir la manière dont les gens ici sont en train de s'organiser, d'essayer de changer la chose. Mais il y a la répression qui est très dure et l'état actuel n'est pas d'une urgence telle que l'instant de survie des gens leur fasse se battre avec une détermination absolue. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une répression, à partir du moment où il y a la répression policière un peu forte, les gens reculent immédiatement. Parce que ce n'est pas une question de survie. C'est-à-dire qu'on peut rentrer encore à la maison et il y a encore de l'eau dans le robinet et on va au supermarché, il y a encore des choses qu'on peut manger. La différence avec nous, c'est que nous sommes dans un contexte de survie. Et à partir du moment où tu es dans un contexte de survie, il y a des instants de survie qui jaillissent naturellement, qui te font te battre avec détermination et tu ne recules pas parce que tu n'as rien à perdre. Et ça, je trouve un peu comme la difficulté ici. L'enjeu ici, le défi, consiste à mettre les gens dans un mode survie, sans être dans un mode survie, dans un contexte de survie, pour qu'on puisse vraiment se battre avec détermination et pouvoir devenir un véritable pouvoir, non ? Et
pouvoir montrer qu'on est devenu un pouvoir qui se bat avec détermination. Et ça, c'est la différence, mais la volonté d'avancer, de faire prendre conscience sur le comment, sur l'eau, malgré tout ce qui s'est passé l'année dernière, d'être encore ici avec des personnes qui viennent de l'international, avec une agenda aussi riche comme celle qu'on voit ici, c'est très important et c'est louable, bien sûr. On se voit là et c'est pour ça qu'on est, venu ici pour porter soutien.
Une considération annexe, je ne sais pas si c'est important ce que je vais dire, mais quand tu entends parler par exemple de Sainte-Soline 2, 25 mars 2023, quand nous les Français on parle de violence policière, quand ici là sur ce village de l'eau on se plaint, avec raison d'ailleurs, de la mauvaise volonté des autorités, des contrôles de police et des choses comme ça, toi qui as été menacé de mort dans ton pays, quel regard tu poses là-dessus?
C'est de là... de la répression à d'autres échelles. Mais c'est de la répression, c'est la violation des droits, de tous ces droits dont on se vante ici, à la liberté, à la libre expression et je ne sais pas quoi. Mais c'est des choses qui sont à dénoncer, dont il faut se plaindre à chaque fois que ça arrive, mais bien sûr qui sont à d'autres échelles par rapport à celles de chez nous. Et ce n'est pas une question de se dire qui est le plus, qui a été le plus... réprimandé par la police, c'est la logique en fait qui est là, qui est la même. La permission avec laquelle la police, l'impunité qu'ils ont dans un pays ou dans un autre, bah, ça fait qu'ils agissent comme ça. Si ces policiers français venaient en Colombie, je pense qu'ils agiraient pareil que la police colombienne parce que c'est l'institution, c'est le cadre qui leur permet de faire ça. C'est cette institution qui leur fait penser des tout-puissants, des détenteurs d'une autorité qu'ils n'ont pas. Parce que la police n'a aucune autorité. L'autorité, normalement, le pouvoir, c'est la base, c'est le peuple. Eux, c'est des serviteurs. C'est des serviteurs du peuple et la majorité du peuple ne voudrait pas qu'ils soient là. L'ordre des choses, c'est ça. Mais la logique, elle est la même dans tous les pays. En Colombie, c'est très démesuré par rapport à ici, parce qu'il y a des groupes paramilitaires, parce que, par exemple, dans un contexte comme celui-ci, certainement, il y aurait déjà des groupes paramilitaires qui seraient entrés. Qui aurait fait le travail sale des forces armées du gouvernement colombien pour ne pas se salir les mains. Qui aurait déjà dégagé des personnes, et si des personnes s'opposaient, bah, ils auraient déjà commis un massacre. Et au pire des cas, comme en Colombie c'est déjà arrivé, jouer au foot avec les têtes des personnes qu'ils avaient tuées. C'est des choses qui, en Colombie, se sont reproduites à multiples occasions dans différentes communautés autochtones et paysannes. Pour autant, ça ne veut pas dire que la répression d'ici ne compte pas. C'est de la répression et il faut toujours la dénoncer. Et j'espère qu'on ne va pas arriver à ce point-là. Il y a pire, ça c'est sûr, ça je dois le dire. Quand j'ai été en Allemagne avec Ende Galende dans une manifestation de 3000 personnes dans une mine de charbon au nord de l'Allemagne, on me disait « Non, Juan, n'entre pas parce que la police elle est très violente. » J'ai dit bah, « J'aimerais bien quand même vivre l'expérience. » Et je suis entré et je me suis senti dans un jeu comme quand je jouais, quand j'étais enfant, avec ma sœur qu'on jouait au... chat et à la souris. Et le chat, c'était le policier, et la souris, c'était moi. En fait, il m'attrapait, et pouf, je m'échappais, hein, et après, il me rattrapait. Et c'était comme un jeu, c'était super sympa. Et surtout, après, tous les activistes qui étaient entrés dans la mine, ils se sont fait dégager après, et ils sont partis dans les bus qu'ils étaient venus chez eux. Et je me suis dit, mais en fait, c'est un hobby de week-end super cool. Je pratique ce hobby chaque week-end pour penser que je suis en train de sauver le monde et après je rentre chez moi peut-être, je regarde du Netflix avec ma copine et je reviens à la vie réelle. Alors la différence c'est que nous on n'a pas le choix de lutter toute la vie en fait. C'est pas un choix de vie, c'est quelque chose qu'on nous a imposé, à laquelle on a répondu et riposté avec l'organisation et la révolution qu'on mène depuis plus de 5 siècles.
Thank you.
Juan Pablo, je t'ai entendu dire un truc qui m'a interpellé. Tu as attiré notre attention sur, disons, cette manière condescendante d'exotiser, sur cette manière que nous, certains occidentaux, de gauche, bien-pensants, altermondialistes, on a pu parfois instrumentaliser, romantiser la figure des gens des peuples autochtones, puis triper sur Gaïa, la Pachamama. Finalement, je réfléchissais à ça et je me disais, mais c'est aussi une forme de colonialisme déguisé en bienveillance.
Ce n'est pas quelque chose de relatif exclusivement à la gauche, ou non, c'est en général. C'est une figure historique qui n'a pas cessé. C'est l'invention du monde comme le tableau de Léonard de Vinci, mais un peu à l'européenne. Tout le monde a été inventé en fonction de comment la subjectivité européenne a voulu interpréter le monde entier. C'est le même cas pour les peuples autochtones. Les peuples autochtones sont le produit de comment la subjectivité du conquistador a voulu nous interpréter, et nous avons été l'objet de cette invention à différents moments de l'histoire avec des prétentions et des objectifs très clairs. Alors au départ, on a dit qu'on était des barbares, qu'on était des sauvages, pour justifier l'interventionnisme, la colonisation, pour justifier, non ? Pour justifier l'injustifiable. Ensuite, on a dit qu'on était les non-civilisés pour pouvoir justifier la mission civilisatrice, c'est-à-dire l'autre étape de la colonisation. Mais ni dans le premier moment, on était des barbares qui étions en train d'attendre des bateaux pour qu'ils viennent nous découvrir, pour commencer. Et après, on n'était pas des non-civilisés en train d'attendre des personnes qui pensaient être dans la faculté de venir nous apprendre des choses qu'on n'avait pas du tout besoin.
Il y a l'une des nombreuses étapes de ce système de barbarie. Il y a eu cette controverse de Valladolid aussi. Des théologiens de l'Église catholique ont débattu pendant très longtemps pour savoir si les gens des peuples autochtones avaient une âme.
C'est ça, oui. Et ça fait partie de la première page de l'invention de l'autre, non ? Mais c'est surtout cette invention de l'autre non-européen pour pouvoir justifier les agissements de l'européen. Et ça a toujours été comme ça au cours de l'histoire. À l'heure actuelle, et nous sommes dans un nouveau moment d'essentialisation, de romantisation des peuples autochtones, dans une narrative autre, qui est que les peuples autochtones sont les gardiens de la Pachamama et les gardiens de la nature. Avec ça, je ne veux pas dire que nous ne le sommes pas, parce que nous sommes le 4% de la population du monde et nous avons dans nos territoires le 80% de la biodiversité qui reste dans le monde. C'est-à-dire qu'en effet, on a une conscience très profonde du respect qui mérite la terre, la Pachamama ou l'environnement, comme vous voulez l'appeler, c'est la même chose, parce qu'on dépend d'elle pour survivre. Mais on n'est pas que ça. Le problème, c'est qu'on n'est pas que ça. Et surtout, si nous sommes encore en vie actuellement, en étant seulement le 4% de la population mondiale, avec ce monstre colonial capitaliste qui veut nous exterminer depuis plus de 5 siècles, c'est pas parce qu'on passe le temps de nos vies à léviter dans les forêts et à manger des arbres, des feuilles des arbres, et à serrer tous ensemble les arbres de la forêt. On est encore là grâce à un processus historique d'organisation, de résistance et de lutte qui, à nos yeux, aujourd'hui peut se révéler comme l'antidote parfait et la recette qu'ici en Occident on est en train de chercher. On est en train de se battre contre ce monstre contre lequel les gens ici sont en train de se battre en ce moment. Sauf que les peuples autochtones ont 5 siècles d'avance. On pense, du coup, pour revenir à la question, que cette essentialisation et cette romantisation de l'être indigène en tant que seulement protecteur de la nature fait partie d'un plan pour nous maintenir dans cette image, dans cette conception, de sorte à que les gens ne connaissent pas ce processus qui pourrait être la clé pour résoudre le problème que vous êtes en train de chercher ici en Occident. Alors c'est mieux de continuer à nous considérer en tant que les bons sauvages, mais pas comme ceux qui luttent de manière cohérente, déterminée surtout, et où les significations de ce qui est, ce qui n'est pas la violence, pour nous, et fait partie d'un autre dictionnaire, c'est pas le dictionnaire occidental. C'est un stratagème de manipulation des subjectivités des personnes ici pour les empêcher de se battre contre ce système, on pense.
La pédagogie, c'est l'art de la répétition. Et il y a un mot que nous, enfin moi, peut-être qu'on est en train de réinventer, mais qui est tellement d'évidence dans ta nation, collectif, collectivité. Repenser à ce mot. Et ça, c'est ce que tu n'arrêtes pas de nous rappeler, en fait, et que parfois, ça a du mal à rentrer, parce que peut-être qu'on a un peu oublié le sens de ce mot.
C'est clair comme l'eau, parce que ici, en Occident, ici en France, nous sommes immerses dans cette société qu'on appelle moderne, non ? Dans la modernité, les deux principales conquêtes de la modernité sont l'émergence de l'individu, le jeu pensant et rationnel, et deux, le jeu pensant et rationnel, maître et possesseur de la nature, comme l'a dit le père de la philosophie moderne, René Descartes, qui est né dans les terres françaises. Alors ces deux choses-là, l'homme en tant que maître possesseur de la nature et l'émergence de l'individu, sont les problèmes qui empêchent, même à l'intérieur de la résistance, de s'organiser pour de vrai, parce qu'il y a des individus, ou sinon il y a des groupes qui restent en tant qu'individus et ne veulent pas se rendre plus fort en s'unissant à d'autres parce qu'il y a des limitations mentales nationalistes, que je suis français et l'autre il est allemand ou l'autre il est anglais ou même à l'intérieur des pays également. Il n'y a pas d'autre recette pour réussir ce challenge que nous avons que de devenir un véritable pouvoir. Et pour devenir un pouvoir, c'est à travers l'union de la vision collective, de la conscience claire, de la force du collectif, des masses et des multitudes unies par un objectif commun. Et deuxièmement, un réenchantement de la mère Terre, un réenchantement de la nature, un réenchantement du monde allé à contresens des fondamentaux, des pères de la philosophie moderne, de Descartes, allé à l'encontre de Descartes, à l'encontre de Weber, qui a prôné le désenchantement du monde. Et maintenant, il faut réenchanter le monde. Il faut aller dans le sens de commencer à remystifier la mère Terre, lui donner cet aspect mythique et tellement important. S'il y a quelque chose que les peuples autochtones n'ont jamais fait et que pour nous constitue la plus grosse erreur jamais commise dans l'histoire de l'humanité, c'est ça, c'est avoir osé, ici en Europe, l'homme, de se positionner au-dessus de la mère Terre. Et c'est à partir de ce moment-là que les problèmes ont commencé et c'est à partir de cette manière de concevoir le monde qui fait que nous soyons aujourd'hui dans cette catastrophe. C'est pour ça que maintenant, il faut inverser tous ces postulats que ici, en France notamment, on défend comme les idéaux humanistes universels. Et il y en a plein qu'il faut reconsidérer. Il faut matérialiser dans la pratique tous les concepts et toute la théorie humaniste qui est restée dans la théorie. Ici, on parle très beau, mais on parle très beau d'une théorie très belle, même si la réalité sociale est totalement dans le sens opposé. Les gens parlent de droits humains, les gens parlent d'égalité, les gens parlent de fraternité. Mais c'est des choses qui n'ont jamais existé. Les droits humains n'ont jamais existé. C'est quelque chose de la théorie. Et les gens sont manipulés. Et ils sont convaincus qu'on a conquis ici l'égalité. Et il faut vraiment les conquérir dans la réalité, non ? Parce qu'il n'y a pas un verbe plus éloquent pour nous que l'action.
Bon, j'ai pas eu peur quand tu as fait ta déclaration, mais j'ai été interpellé par l'adjectif « divin ». Que tu prononçais, mais j'ai bien compris qu'il ne s'agit pas de se prosterner devant un bout de bois en forme de croix ou d'étoile ou de machin, mais en tout cas, je l'entends comme ça, de bien prendre conscience que nous sommes partis d'un tout, une particule du grand tout, et que ça n'a rien à voir avec rentrer dans une secte.
Tout à fait, et ça n'a rien à voir avec une secte ou avec une religion non plus. Quand je dis rendre l'aspect mythique, c'est-à-dire remythifier la nature, ça n'a rien à voir avec une religion ou quoi que ce soit. Et ça, c'est le plus grand défi ici, en France notamment, où on pense que la plus grande conquête a été la sécularisation du monde, non ? Et tout ce qui a la moindre trace, ou c'est suspicieux d'être un peu religieux, un peu dogmatique, immédiatement, c'est rapporté à la religion, immédiatement, c'est rejeté. Et on ne va jamais réussir cette entreprise de réenchanter le monde, réenchanter la mère Terre, si on continue convaincu de ces postulats modernes de la sécularisation comme la plus grosse conquête. Parce qu'en réalité, la sécularisation de la mère Terre a été la plus grosse erreur qui a été commise ici il y a quelques siècles en arrière.
Et pour revenir sur le premier point du collectif, pourtant ça fait quand même un moment qu'on le connaît, le slogan « El pueblo unido jamás será vencido ».
Bah surtout, il faut arrêter de le chanter. Il faut le mettre en pratique pour de vrai et le comprendre dans l'acception entière. il faut resignifier tout le monde, non? Il faut resignifier la réalité sociale dans laquelle les personnes vivent ici. Il faut resignifier la conception du pouvoir, des hiérarchies. Il faut resignifier pratiquement tout ce qui est la violence, ce qui n'est pas la violence, pour construire un nouveau monde, obligatoirement. On ne peut pas construire un nouveau monde en nommant le monde de la même manière. C'est impossible. Pour commencer à le comprendre autrement, il faut essayer de le signifier autrement. Et obligatoirement, il faut passer par ça.
Dis-moi, l'autre jour, à la conférence de presse, tu as lu un texte. Est-ce que tu l'as avec toi, ce texte?
Oui. Ça me fait plaisir de
conférence de presse.
En dehors de la conférence de presse, pour que les gens puissent vraiment l'entendre, parce que c'est quelque chose qui est très beau.
Peut-être l'émission même, on aura pu juste la faire avec ce communiqué. Peut-être même qu'on aura dû commencer par cette déclaration.
Tu ferais bien de le faire comme ça, oui. Alors, ça commence comme ça. Aujourd'hui, nous sommes ici les fils et les filles d'hommes et de femmes libres venus de différents continents du monde. Les fils et les filles d'hommes et de femmes libres qui ne se sont jamais soumis à l'autorité individuelle des gouvernements de la mort. Des gouvernements déconnectés de la loi naturelle, de la loi divine, de la loi de la vie. Nous sommes aujourd'hui, ici en France, des représentants de peuples autochtones, de communautés paysannes et des communautés noires, venus de la Colombie, du Brésil, du Mexique, du Chili, les fils et les filles d'hommes et de femmes libres qui ne sont jamais tombés dans le piège du progrès moderne, violeurs de la vie et prédateurs de la mère Terre, qui est à l'origine de la plus grande menace que nous ayons jamais eue en tant que famille humaine, la crise climatique. Nous sommes aujourd'hui, ici en France, les fils et les filles de la mère Terre, qui depuis des siècles, luttons sans relâche pour la défendre contre les politiques des gouvernements archaïques et retardataires, les gouvernements de l'absurde, de la mort et contre leurs politiques, ces politiques de ces gouvernements illégitimes. Aujourd'hui, nous sommes ici pour porter notre soutien ferme et déterminé aux milliers de frères et sœurs mobilisés à Mel qui luttent contre la privatisation du vivant, du vital, de l'eau, qui luttent comme nous pour le droit universel à la vie digne. La mère Terre ne connaît pas de frontières et la lutte pour la défendre non plus. No pasarán. Fuerza, compañeros.
L'objectif, j'ai fait un raccourci entre adjectif et abject.
<C'est ça.
rire> Et l'adjectif qui me semble tellement pertinent dans tout ça, c'est absurde.
C'est pas une question de droite et de gauche. En Colombie, nous, les peuples autochtones, on l'a très clair. Et c'est le gouvernement de la vie et le gouvernement de la mort, le gouvernement de la vie et le gouvernement de l'absurde. Et il faut se battre contre les gouvernements de l'absurde. C'est le gouvernement de la mort. C'est ça, les ennemis actuellement.
Et voilà les amis, c'est sur un agenda assez clair qu'on va se quitter. Combattre les gouvernements de la mort et de l'absurdité, faire la révolution, réenchanter le monde, remythifier la mère Terre. C'est sur ce grain à moudre que Juan Pablo Gutiérrez a partagé avec nous que prend fin cette conversation, que vous pouvez télécharger avec les autres épisodes de cette série Village de l'eau via notre site polymix et lavoixoff.com. Avant qu'on se retrouve très vite sur votre radio libre préférée, ce n'est qu'un combat. Continuons le début. No basaran.